Alors, le 15 mai 2013, fut vendue à l'hôtel des Ventoux une grande partie des papiers de Léon Blois, conservés par la famille depuis son décès. Parmi cet ensemble formidable pour la recherche, et malgré la tristesse de voir cet ensemble unique dispersé, nous avons pu acquérir, lors de cette vente, le dossier consacré à Berthe Dumont. La notice du catalogue, établie par l'expert en autographe Thierry Baudin, débutait ainsi. Ouvrière d'Heureuse, maîtresse de Blois, 32 lettres ou pièces d'elle la concernant, 1877-1885, plusieurs papiers fragiles et effrangés, intéressant ensemble autour de Berthe Dumont, qui inspira la Clotilde Maréchal de la femme pauvre. Ces 32 pièces, qui forment à peu près 80 pages, furent conservées par Blois toute sa vie, révélant ainsi, s'il était besoin de le souligner, l'importance de Berthe Dumont dans son existence, au point d'en faire l'héroïne de la femme pauvre, au moins dans la première partie. Ce dossier a été vu dans les années 30 par Joseph Bollery, sans doute chez Madeleine Blois. Il s'en sert dans plusieurs articles publiés dans les cahiers Blois, mais aussi dans son livre « La genèse de la femme pauvre ». Il cite également quelques lettres ou documents dans sa biographie, mais la totalité du dossier est grandement inédite et nous livre des détails importants sur les relations de Blois avec Berthe. Si Bollery donne la plupart des lettres de Berthe au Montchal qui figurent dans son dossier, il omet de préciser certains détails qui ont pourtant leur importance. Nous y reviendrons. Je vais vous présenter ce dossier, mais uniquement ce dossier, sans faire d'allusion ou de citation à la femme pauvre ou aux lettres au Montchal, par exemple, bien que cela éclaire bien des lettres ou des notes conservées par Blois. Alors, je ne vais pas aborder la biographie de Berthe Dumont, qui est à présent assez connue, mais donc vous décrire ce dossier et en donner les pièces les plus importantes et inédites. Et ce dossier, par contre, ne met pas toujours Blois en valeur et pose un grand nombre de questions. Un exemple, les lettres de Berthe au Montchal, qui figurent dans ce dossier, sont toutes dictées par Blois et entièrement corrigées par ce dernier. On peut se demander comment les Montchal ont-ils pu être aussi dupes et naïfs à ce point à la réception des lettres. Et comment n'ont-ils pas reconnu la main de Blois derrière celle de Berthe ? Figurent également dans le dossier les lettres de la mère de Berthe Dumont à Léon Blois après la mort de Berthe. Ces lettres sont assez terribles pour Blois et la mère de Berthe l'accusant également de tous les torts. Il en ressort également que cette dernière ne devait pas être très simple à vivre, comme le suggérait déjà Bollery. Faut-il alors croire que le portrait terrifiant qu'il fait de la mère de Berthe dans La femme pauvre soit proche de la réalité, au point qu'il ne lui adresse plus la parole après la mort de Berthe ? On peut en gros diviser ce dossier en cinq grandes parties. La première concerne Berthe Dumont avant Blois. Ensuite, une partie est consacrée aux relations de Blois avec Berthe, et une autre partie concerne les lettres, brouillon à vrai dire, de Berthe au Montchal. Une grande partie, assez émouvante, est consacrée aux funérailles de Berthe. Viennent ensuite une longue série de lettres de la mère de Berthe Blois à Blois et à Adèle Montchal après la mort de sa fille. À ce dossier constitué par Blois, nous avons ajouté des télégrammes inédits de Blois à Berthe qui provenaient de notre collection personnelle. Blois rencontre Berthe Dumont au début de l'année 1884. À cette époque, il vit encore à côté de chez Barbet d'Orvilly, rue Rousselet. Ce n'est qu'en septembre 1884 qu'il quittera Paris pour s'installer à Asnières, tout d'abord 10 rue de l'Orne, puis à partir du 15 octobre 20 rue Saint-Guillaume, donc toujours à Asnières. Il vivra séparé de Berthe jusqu'au 5 février 1885, jour où il emménagera avec elle au 10 rue du Pessy-Piquet à Fontenay et avec sa mère. C'est là que meurt Berthe, le 11 mai 1885. Berthe et sa mère vont donc s'installer ensemble sous le même toit avec Blois. Après la mort de Berthe, il garde sa mère avec lui et cette cohabitation se révèle être un cauchemar. Par chance, le propriétaire de Fontenay lui demande de quitter la maison. Une lettre que l'on connaît du 24 mars 1886 l'informe qu'il devra quitter les lieux le 1er avril. L'occasion de se séparer de son ex-belle-mère est trop belle, lui qui ne savait pas comment lui dire alors qu'il avait envisagé cette séparation depuis très longtemps. Il quitte donc à la date prévue Fontenay. s'installe seul le 5 avril 1886 au 127 rue Blomet à Paris, laissant donc seule à Fontenay la mère de Berthe. Elle a dû déménager elle aussi, ne pouvant rester dans la maison louée auparavant. Débute alors pour elle une longue descente en enfer. Manque d'argent, manque d'affection, manque de tout. Il va cependant falloir jeter un certain bémol sur cette descente en enfer. La lecture des lettres inédites de la mère de Berthe à Blois nous laisse entreapercevoir une femme calculatrice, parfois même démoniaque. Le portrait de la mère Chapuis dans La femme pauvre lui doit beaucoup, sans doute plus qu'on ne l'a dit jusqu'à présent. Ouvrons donc ce dossier conservé par Blois. Morte à 28 ans, Berthe a débuté assez jeune. Elle a tout juste 20 ans en tant que chanteuse comique, comme le stipule le contrat qu'elle signe le 10 août 1877 avec un certain monsieur Cazan, représentant de l'agence centrale des théâtres et concerts. Berthe sera logée, nourrie et blanchie pour la somme de 50 francs par mois. Les frais de déplacement seront remboursés intégralement lors des tournées. Elle avait déjà effectué une tournée de chant dont le dossier conserve deux documents. Le premier fait état d'une grande tournée. J'espère que ça marche. Voilà. Le premier fait état d'une grande tournée effectuée principalement en Seine-et-Marne en avril 1877, qui avait été précédée d'une tournée en province, la conduisant à Bourges, Loches, Argenton, Limoges, etc. Ces itinéraires sont soigneusement calligraphiés par Berthe sur une petite feuille, donc vous voyez là. Nous savons, grâce à une copie, quel genre de chanson pouvait chanter Berthe devant son public lors de ses tournées. En l'occurrence, il s'agit d'un duo. Qu'elle interprétait avec un certain monsieur Rosé, la polonaise et l'hirondelle, puisque c'est de cette chanson qu'il s'agit, est une chanson extraite de L'exil crevé, opéra bouffe d'Hervé, dont la première eut lieu au Théâtre des Folies Dramatiques le 12 octobre 1867. Cet air était assez à la mode, et nous avons même retrouvé au puce des assiettes gravées avec ce thème. Et bon nombre de partitions existent, avec des réductions pour le piano seul. Banville la cite d'ailleurs même en 1873 dans ses cabarets parisiens. Voici, à titre anecdotique, le couplet chanté par Berthe au concert de la lyre de Belleville. Voilà. Ils prennent un sentier vert, la belle se mit à sourire et lui dit « Je crois, mon cher, qu'avec moi vous voulez rire, ne me touchez pas où je m'en vas, mais notre galant soupire et, tombant à genoux, lui roucoule des mots bien doux. » Plusieurs documents conservés par Berthe, et donc par Blois, nous montrent une Berthe beaucoup moins enjouée comme on pouvait l'imaginer sur scène. Malade, allant d'hôpital en hôpital, un certificat nous apprend qu'elle exerce maintenant le métier de doreuse et internée à l'hôpital de la Charité, elle quitte celui-ci pour aller en février 1879 à l'asile national du Vésinet. En décembre 1879, un médecin lui établit un certificat médical, la déclarant incapable de travailler suite à une péritonite qui l'a tenue alitée entre mai et août. Elle a gardé des séquelles de cette opération et, là je cite le certificat du médecin, « à la suite de cette affection, un état de chloroanémie et de douleur névralgique dans le membre inférieur gauche, accident qui la rend incapable de se livrer à un travail quelconque ». À cette date, elle est couturière. Elle est domiciliée à Paris au 135 rue Saint-Jacques. En 1881, elle est au service d'un monsieur Julien. Elle vit chez lui avec sa mère, 63 rue Monsieur le Prince, juste à côté, toujours à Paris. C'est sans doute pour calmer ses douleurs que Berthe commença à prendre de la morphine. Malheureusement, elle devint rapidement morphinomane, comme bon nombre de personnes à la fin du XIXe siècle. Berthe en parle ouvertement dans une lettre à Blois, et sa mère également lui demande par deux fois, dans une lettre de juin 1884, d'arrêter la morphine. Je cite la mère de Berthe, « Cesse la morphine, je t'en prie, cesse la morphine !» Une ordonnance concernée dans le dossier nous montre le nombre de pharmacies fréquentées par Berthe pour avoir sa morphine quotidienne. Les cachets de pharmacie datent de 1882, mais dans une lettre de 1884, elle demande à Blois de lui procurer sa dose de morphine quotidienne. Une enveloppe contient de curieux petits poèmes de Berthe, dont un acrostiche adressé à Blois, sans doute au tout début de leur relation. L'enveloppe est ainsi rédigée, vous voyez, « Lettre de félicitations adressée à M. Léon Blois, homme de lettres ». Et donc, vous voyez le petit acrostiche en haut, avec le nom de Berthe qui commence les vers. Je vais vous le lire parce que ce n'est pas facile à lire. C'est au tout début parce qu'il se vous voit. Bercé sous vos genoux et dans un long délire, entendre votre voix dont le suave accord résonne à mes oreilles aussi doux qu'une lyre, tel serait, ange aimé, pour moi le plus doux sort. Hélas, chaque soleil ramène mon martyre, et vous, cruel enfant, vous l'ignorez encore. Un petit cahier, sans doute confectionné par Berthe elle-même, contient des prières recopiées, parfois annotées ou corrigées par Blois, ainsi que des réflexions théologiques de Blois. Mais le plus intéressant est une sorte de journal tenu par Berthe et intitulé « Impressions du samedi 26 avril 1884 ». C'est une sorte de journal confession sur trois pages. Alors, je me suis un peu emmêlé dans les photos, donc ça va sauter. Voilà. Voilà le journal de Berthe. Donc, je vais vous en lire quelques pages, quelques passages qui sont très, très intéressants. « Mon pauvre Léon, comme je t'ai vu partir ce matin triste et souffrant, hélas, mon bien-aimé, quel mal as-tu donc fait pour être toujours la victime du sort? Quel mal, pauvre insensé que je suis, quel mal, mais trop de bien, toujours trop de bien, et pour récompense, la douleur, toujours la douleur. Tu me dis que la douleur est une noble chose. Oui, c'est vrai, puisqu'elle t'a rendu noble, grand, bon et généreux. Dieu t'aime, mon bien-aimé, et te récompensera de tes peines. Vois ta pauvre Berthe, que n'a-t-elle pas souffert? Tout. La faim, le froid, les injures, la vie forcée avec des êtres infâmes et abjects. » Alors, ces pages sont entièrement corrigées par Blois. Je ne sais pas si on le voit là. Oui. Ces pages sont entièrement corrigées par Blois au crayon bleu, aussi bien l'orthographe que l'écriture elle-même. On peut donc supposer que Blois, allant à Paris, avait demandé à Berthe de tenir son journal pour qu'elle puisse le lire le soir. À ce journal était joint un très émouvant document. Ah oui, alors, il y a une autre page du journal que je voulais vous montrer, qui sont des grandes phrases et de réflexions de Blois. Alors, à ce journal était joint un très émouvant document que les Bloisiens connaissent bien. Il s'agit du bulletin d'inscription de Berthe Dumont à l'archiconférie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie pour la conversion des pécheurs et émis par la paroisse Notre-Dame des Victoires. Et il est daté du 17 mars 1884. Donc on sait que Blois est avec Berthe très souvent à Notre-Dame des Victoires. Suivent ensuite deux très belles lettres de Berthe à Blois. Alors, elles sont inédites. La première est datée de Port-Marly, du 27 juin 1884. Berthe est hospitalisée, laissant Blois seul avec sa mère. Donc, voici la lettre. Alors, je vais vous les lire, ces lettres, parce qu'elles sont très intéressantes et très révélatrices de... Enfin, vous verrez. Mon bien-aimé Léon. Alors, c'est l'écriture de Berthe, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, et là, Blois ne l'a pas corrigée, celle-ci. « Que les jours me semblent longs sans toi, moi qui étais habituée à te voir tous les jours, cela me semble bien dur, surtout je suis très souffrante. Je ne peux à peine marcher, et j'en suis très vexée, car j'ai peur que l'on y retrouve à redire, quoique ces personnes sont très gentilles pour moi, mais ne pouvoir faire un pas, cela n'est pas gai. Je te dirai que je ne prends plus qu'une fois par jour de la morphine, et j'ai la ferme espérance que d'ici peu, je n'en prendrai plus du tout, mais je ne peux cesser cela si vite, quand bien même je le voudrais, et quand tu viendras, apporte-moi quelques paquets. Tu donneras la valeur de 3,25 francs à ma mère, et elle ira en acheter 5 paquets que tu m'apporteras. En même temps, apporte-moi la lampe à esprit de vin, ainsi que le petit poêlon qui me servait à faire mes cataplasmes, car ici, je les fais à la cuisine, mais cela me gêne. J'aimerais mieux les faire dans ma chambre. Et puis mes souliers, mes effets de linge qui restent chez nous, et mon fer à friser les cheveux. Je crois que c'est tout ce dont j'aurai besoin. Surtout, n'oublie rien, car je serai très malheureuse. Et toi, mon bien-aimé, comment as-tu pu passer ces quelques jours? Mon amour chéri, qu'il me tarde de te voir pour savoir tout ce qui s'est passé là-bas, ceci m'inquiète beaucoup. » Donc c'est à Fontenay avec sa mère, « car je ne sais en rien ce qu'elle va faire. Enfin, je laisse tout cela à toi. Tout ce que tu feras sera bien fait. Sois-en certain que je m'opposerai devant aucune des choses que tu feras. Ne t'ennuie pas trop, je t'en supplie, mon cher petit ami, car ce serait un désespoir continuel pour moi. Viens vite, je t'attends avec impatience, car tu sais que je t'aime de toutes les forces de mon cœur, et sans toi, je ne suis et ne serai qu'une pauvre délaissée. » Ça, c'est intéressant. « Ne dis pas trop de méchanceté à la mère. Laisse-la pour ce qu'elle est, car vois-tu, elle a beau être bien méchante, c'est toujours ma mère. Ne la laisse manquer de rien, ce serait une terrible souffrance pour moi. À samedi soir, mon chat bien-aimé, ne manque pas car je serai trop triste, je t'embrasse du plus profond de mon cœur, ta Berthe qui t'aime. » Alors les allusions à la mère de Berthe sont très intéressantes et elles ne sont pas, bien évidemment, sans faire penser à certains passages de La Femme pauvre. La seconde lettre de Berthe à Blois n'est pas datée. Elle doit cependant être de la même période. Elle est curieusement entièrement annotée par Blois au crayon de papier. Non seulement il corrige les fautes d'orthographe, mais il réécrit certains mots mal écrits par Berthe. Je vais vous la lire aussi, elle est assez intéressante. « Mon bien-aimé, avec quelle douce ivresse j'attends ton retour pour me jeter dans tes bras, te presser fort sur mon cœur et puiser dans tes doux yeux que j'aime tant à contempler, la force et le courage qui me manquent quelquefois. Mais quand tu es là, mon Léon adoré, j'oublie tout. Tu es mon aurore, tu es mon soleil radieux, tu es mon étoile providentielle, tu es ma fleur, ma rosée bienveillante, mon délicieux parfum, mon baume salutaire, mon âme, mon amour, ma vie. Quand tu es près de moi, je suis tout à l'ivresse de ton doux regard, au plaisir de t'entendre, ta chère et tendre voix me redire que tu m'aimes. Quelle douce sensation j'éprouve à ce mot, quel trouble heureux s'empare de moi. Tout mon être tressaille de plaisir et de joie. Mon cœur étouffe par... » Alors, elle avait écrit « par le bonheur » et Blois corrige. « Mon cœur étouffe de bonheur et à l'ardeur de tes suaves caresses et tes tendres baisers. Ô mon Léon, mon cher Léon, que je t'aime, que je t'adore. Mais comment reconnaîtrais-je tant d'amour, tant de dévouement, tant de tendresse et tant d'abnégation? Comment paierais-je tant de sollicitude et comment te rendrais-je tout le bien que tu m'as fait et que tu me fais? Je n'ai rien à te donner que mon pauvre cœur meurtri que tu as réchauffé et réveillé, mais quoique pur en raison de tant de bonheur, dis-toi qu'il t'appartient tout entier et que si ma faiblesse ne me permet pas de te seconder matériellement, mon âme t'appartient tout entière et ma vie en retour n'est pas assez et ne sera jamais assez pour récompenser tant de nobles actions. » Bon, je ne vais pas continuer, mais enfin, toute la lettre est de cet ordre-là. Alors on peut être surpris que sur une pareille déclaration d'amour, Blois prenne le soin de corriger au crayon toutes les erreurs et toutes les fautes d'orthographe de Berthe. Mais nous le verrons, en fait il le fera pour toutes les autres lettres et brouillons de sa compagne. Une lettre adressée à une certaine Faustine, que je n'ai pas identifiée, datée du 30 juillet 1884, voilà c'est celle-là, et entièrement, alors la lettre est de la main de Berthe, et vous voyez bien qu'elle est entièrement corrigée par Blois, et c'est même lui qui écrit le dernier passage. Vous voyez là, en bas, vous reconnaissez l'écriture de Blois, et c'est lui qui écrit en son nom « Léon se joint à moi pour vous adresser, en même temps que de meilleures amitiés, l'expression de notre reconnaissance. » Une autre lettre très intéressante, mais alors a-t-elle été envoyée? Ou est-ce plutôt un brouillon, et elle n'est pas non plus annotée par Blois, c'est assez curieux, est adressée à Manuel de Grandfort, sans doute en octobre 1884. Alors, cette lettre est assez intéressante parce que Manuel de Grandfort, c'est le pseudonyme de Marie-Antoinette Barsalou, qui n'est autre que la compagne d'Émile Goudot à partir de 1880, Émile Goudot qui, rappelons-le, est le cousin de Blois. Cela veut donc dire que Blois avait présenté Berthe, si ce n'est à sa famille, au moins à son cousin, qu'il fréquentait encore régulièrement à cette date. L'idée donc d'une Berthe recluse à Fontenay ou à Asnières, attendant son homme tous les soirs de retour de Paris, est donc sans doute un peu à revoir. On peut imaginer Blois sortant avec elle, et pourquoi pas au Chat Noir, avec Goudot. À cette époque, il fréquente encore le cabaret, mais j'en ai absolument aucune preuve, mais ce n'est pas impossible. En tout cas, nous avons là la certitude qu'il lui faisait partager quelques-unes de ses relations. La sortie au Jardin des Plantes, par exemple, les séances dans l'atelier dans La Femme pauvre ne sont peut-être pas toutes sorties de l'imagination, tout droit de l'imagination de Blois. Dans cette lettre, il semble bien que Manuel de Grandfort lui venait en aide. Il n'est pas exclu non plus que Berthe lui faisait quelques travaux de couture, comme il en est question à propos d'une robe. Donc je vous donner quelques extraits. Donc c'est Berthe Dumont à Manuel de Grandfort, la compagne de Goudot. « Chère madame, comme votre bonne est arrivée, j'allais aller chez vous, vous portez votre robe et différents objets, mais avec la connaissance des deux lettres, je présume qu'il vaut mieux que M. Léon y aille lui-même. Tant qu'à la robe, si je m'en suis servi, c'est avec l'autorisation toute particulière de Léon, il vous le dira lui-même. » Et elle conclut sa lettre. Si mon pauvre Léon rentre pour dîner, vous le verrez sûrement ce soir, sinon demain matin, votre bonne pourra vous dire de quelle manière a été soignée votre robe du soir. Et elle ajoute en PS, mes compliments à M. Goudot. Alors, sont jointes au dossier conservé par Blois les lettres de Berthe au Montchal. Il s'agit donc de deux très longues lettres de Berthe à Louis Montchal et de trois lettres à sa femme Adèle. Ces lettres sont en grande partie publiées par Bollery et sont elles aussi révélatrices de la façon qu'avait Blois de faire passer ses messages, même auprès d'un de ses meilleurs amis. Ces lettres sont en effet presque intégralement dictées par Blois, l'une d'entre elles, à Louis Montchal, étant entièrement de la main de Blois et recopiée mot pour mot par Berthe. Les lettres à la femme de Montchal sont relues en détail par Blois, annotées, les fautes d'orthographe corrigées, et à la dernière lettre de Blois, de Berthe, Blois ajoute lui-même le PS, qui est entièrement de sa main. Donc voici le PS. PS, donc c'est de la main de Blois. Je rouvre ma lettre pour vous dire que mon Léon vient d'arriver. Il a à peu près réussi et il me charge de vous embrasser. Alors, la première lettre est adressée à Louis Montchal. Elle est datée d'Asnières, du 12 novembre 1884. Il existe deux versions de cette très longue lettre. La première est le brouillon de la main de Blois, brouillon qui a servi à Berthe pour la copie. Donc vous avez le brouillon qui est derrière moi. Blois parle de lui-même au travers de Berthe, comme s'il parlait de lui à la troisième personne. Donc les thèmes sont classiques dans la prose bloyenne et régulièrement abordés par Blois. Il est pauvre, méconnu, il a du talent, etc. On peut cependant se demander comment Montchal a lu et interprété cette lettre. Aura-t-il reconnu le style de Blois ? On reste un peu confus et même sans voix devant cette sorte de mystification. Blois n'hésite pas à utiliser les grands moyens face à un de ses meilleurs amis. C'est donc une véritable mise en scène biographique. Blois met tout en œuvre pour faire surgir de l'empathie chez son correspondant, doublonnant en quelque sorte ses propres lettres désespérées au Montchal de la même époque. Donc là, vous avez le brouillon qui est entièrement de la main de Blois, on reconnaît bien son écriture, et vous avez la lettre au Montchal, la lettre recopiée mot pour mot, par Berthe. Donc vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Donc la lettre de Berthe, la première, donc, qui est une lettre de Blois en fait. Je vais vous en donner quelques extraits parce que c'est très intéressant. Vous vous étonnerez sans doute de la hardiesse d'une jeune personne qui vous écrit sans vous connaître, mais j'espère que votre amitié et votre dévouement pour M. Léon Blois vous feront excuser ma démarche. J'ai le bonheur d'avoir inspiré un sincère attachement à ce grand artiste et je sais qu'il n'attend qu'une amélioration certaine de sa situation d'écrivain pour me faire partager sa vie. C'est assez vous dire quel intérêt je prends à ce qui le touche. Tout ça, c'est la main de Blois, je vous rappelle. Monsieur Léon Blois nous voit presque tous les jours, ma mère et moi, et nous sommes bien placés pour juger son effrayante situation. Il périt de misère et de désespoir, faute de pouvoir attendre un peu de temps encore la vente d'un manuscrit. La vente d'un manuscrit dont il vous avait parlé, je crois, et pour lequel une somme assez forte lui a été promise dans un délai de quelques semaines. D'un autre côté, sa collaboration à l'événement paraît assurée, mais le paiera-t-on ? Monsieur Léon Blois est si malheureux depuis longtemps que sa force et son courage sont à bout. Je vous écris ceci en pleurant et à son insu, ayant appris votre amitié et votre grande admiration pour lui. Si moi-même je n'étais pas aussi pauvre, je trouverais bien le moyen de le secourir sans qu'il s'en aperçût, qu'à la souffrance de ce grand cœur qui s'est toujours dépouillé de tout pour ses amis ou ses parents me désole. Je vous jure qu'il n'y a pas une minute à perdre. Pardonnez-moi, monsieur, cette lettre, et surtout que monsieur Blois n'apprenne jamais que je vous ai écrit. Il ne me le pardonnerait jamais. Une pauvre fille qui vous aime déjà sans vous connaître et qui espère vous connaître dans des jours plus heureux. C'est quand même extraordinaire, parce que c'est lui qui l'écrit. Quoi. Blois prend ensuite le soin, donc au dos, je n'ai pas tout scanné, de rédiger en gros caractères l'adresse de Montchal à Genève. Cette lettre est donc entièrement de la main de Blois, avec des ratures, des corrections, des variantes, et donc elle est recopiée mot pour mot par Berthe, donc voilà là, l'autre, avec un passage de l'avant-dernière phrase qui est donc souligné par Blois dans la lettre copiée par Berthe, qui est le passage, et surtout que M. Blois n'apprenne jamais que je vous ai écrit. Suit, par ordre chronologique, donc dans le dossier, une lettre à Madame Montchal, sans doute de la mi-février 1885, et sans doute aussi la première lettre à elle adressée. Il existe un brouillon du début de la lettre, puis la copie de Berthe de la lettre entière. Là encore, la lettre est entièrement relue et corrigée par Blois. Elle lui envoie à Genève un fichu de laine, donc je cite le début de la lettre. « Chère Madame, voulez-vous permettre à une inconnue de vous offrir ce fichu de laine blanche qu'elle a fait pour vous en reconnaissance de l'amitié que vous avez généreusement témoignée à M. Léon Blois, dont j'ai l'honneur et le bonheur d'être la fiancée. Je vous aime sans vous connaître, comme j'aime votre mari et tous ceux qui veulent du bien à l'homme de génie et au grand cœur qui m'a choisi, malgré ma misère, pour être sa compagne, car moi seul suis à portée d'apprécier chaque jour sa générosité et sa grandeur d'âme. » des Blois intervient donc dans le dernier paragraphe de cette lettre de Berthe, et il souligne les mots de génie et grand cœur. Suit une très longue lettre adressée à Montchal, la dernière, longue de 6 pages. Alors, cette lettre semble être là de la main de Berthe. On ne reconnaît pas le style de Blois dans ses lettres précédentes et il n'y a aucune correction de sa main, même si parfois certaines formules sont copiées presque mot pour mot sur les autres lettres. Elle est datée du 18 avril 85 de Fontenay sur un papier en tête gravé d'un joli B majuscule pour Berthe, comme le papier classique à l'époque. C'est sans doute la lettre la plus sincère de ce dossier. Le début est le reflet de la vie de Blois, toujours en quête d'argent. Donc je vous lis cette lettre qui semble être entièrement de la main de Berthe. C'est dans les larmes et dans l'angoisse la plus terrible, à 11h30 du soir, après 2 jours d'attente, 2 jours de supplice, 2 jours que mon très cher bien-aimé et trop malheureux ami est parti pour Paris pour courir après l'argent et il n'est pas encore rentré. Où est-il? Que fait-il? Je souffre comme une damnée. Surtout au souvenir des cruelles paroles qu'il a dites en partant, donc 2 points, ouvrez les guillemets, là c'est Blois qui parle, ma pauvre petite amie, si je ne trouve pas d'argent, je te dis adieu, j'aime mieux me laisser mourir sur mon pauvre lit. Pauvre ami, moi qui l'aime tant et le voir souffrir, lui, un homme comme lui, un si grand génie, une âme si belle, lui que l'on devrait tant reconnaître, tant son grand talent, lui qui n'aime que le beau et le sublime, lui l'esclave de la vérité. Bon, ensuite, Berthe demande de l'argent, un classique, et elle finit sa lettre en disant « Cher monsieur, je vous écris à son insu, comme vous pouvez croire, car jamais il ne vous aurait dit tout cela, et je vous en conjure au nom de notre mutuelle amitié, gardez-moi précieusement le secret. » Donc, un autre passage, peut-être dicté. « Si vous pouviez lui trouver 200 francs, vous le sauveriez d'un péril extrême, et même la vie, pendant ce temps, il ferait un peu de son pauvre livre. Il me disait il y a 4 jours, donc Berthe cite Blois, si j'étais libre, je ferais de si belles choses. Je sens que j'accomplirais mon œuvre et ne pouvoir rien faire, passer mon temps à aller me faire rejeter à la porte de ceux à qui je demande du secours. » Cette lettre nous apprend également que Blois avait gardé sa chambre rue Rousselet, alors qu'il habitait à Fontenay. Berthe dit effectivement, et avec tout cela, 3 pauvres termes à sa petite chambre de la rue Rousselet, ici menacée d'être envoyée faute de paiement. Voyez, la situation est sans rien. Et la lettre se termine par un PS assez déchirant qui est écrit en gros « Sauvez notre pauvre et grand ami ». Cette longue lettre est peut-être celle qui nous permet de cerner le mieux l'état de Blois dans cette terrible année 85, alors qu'il est en pleine rédaction du désespéré. Les quêtes incessantes d'argent à Paris, les portes fermées, on touche là une réalité évoquée par Berthe et dont Blois va largement s'inspirer pour son œuvre comme on le sait. De cette époque et des voyages à Paris, nous avons retrouvé 4 télégrammes adressés à Berthe qui confirment bien ses propos. Donc ces télégrammes sont tous adressés à Madame Blois à Fontenay. Donc très très laconique parce qu'il ne fallait pas que ça coûte très cher. Ils tiennent pour la plupart en quelques mots bien révélateurs. Alors, il faut que je passe 2-3 images. Voilà, en voilà un par exemple. Le 12 mars 85, Blois écrit « J'arrive avec argent, Blois ». 17 mars, « J'arrive, Blois ». Tous ces télégrammes sont envoyés de Paris à Fontenay. Le 9 mai 85, lettre chargée vient à midi, Georges. Le 11 mai, bonne nouvelle, arriverait demain matin, 10h, Blois. Et donc ce dernier télégramme est daté du jour de la mort de Berthe. Alors, si l'un des télégrammes, vous l'avez peut-être entendu, est signé Georges, il ne peut en aucune façon être de son frère Georges, qui à cette date, là au printemps 85, vient d'être condamné aux travaux forcés en Cochinchine. Mais nous savons que c'est à cette même période que Blois apprendra cette condamnation. Des lettres de la même époque au Montchal, où il y a une lettre à Villiers, ils font souvent état de cette condamnation. Et il y a très longtemps, Michel Arveillet m'avait également dit que certaines lettres étaient signées Georges, parce qu'à Fontenay, il n'avait pas que des amis et beaucoup de dettes auprès de ses fournisseurs. Les lettres de la mère de Berthe, nous le confirmerons par la suite. La dernière lettre conservée dans le dossier est adressée à Madame Montchal. Elle est sur le même ton que toutes les autres lettres et reprend des éléments identiques dans celle à Montchal que nous venons de voir. Alors, là, voilà, c'est celle-ci. Alors cette lettre, c'est la plus longue, elle fait 7 pages, et là encore, elle est entièrement corrigée par Blois et annotée par Blois, avec une mention bien émouvante en tête de la lettre. J'espère que vous pouvez le voir juste après la date. Je vais pas me tourner. Vous voyez tout en haut, Blois a ajouté 5 jours avant la mort, arrivé le 11. Je trouve ça assez très, Cette lettre est en effet datée du 6 mai 85, à 4h du matin, et Berthe, comme nous l'avons vu, meurt à Fontenay le 11 mai. Donc je vais vous en citer quelques passages qui sont très émouvants, quelques jours avant sa mort, en sachant qu'elle est entièrement corrigée par Blois. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, là on le voit peut-être un peu mieux, tous les mots qui sont réécrits par Blois, les majuscules et tout ça. Donc Berthe commence à Madame Monchal. « Ma très chère et dévouée amie, pardonnez à une pauvre fille de ne pas avoir répondu plus tôt à vos bonnes et chaleureuses lettres et ne m'accusez pas, car j'en suis la première punie. Je suis si heureuse quand je les reçois, elles me font tant de bien. Il est si doux quand on souffre de sentir des cœurs qui vous aiment et qui vous comprennent. Comment pourrais-je jamais m'acquitter envers vous, moi, pauvre malheureuse, d'être aimée par de telles âmes ? Quel sublime trio vous faites, vous et mon cher et noble ami. Cher ami, quelle croix porte-t-il sur terre ? Quel calice amer avale-t-il chaque jour, sans trêve ni repos ? Pas une minute d'arrêt, toujours souffrir, jamais un instant de bonheur, pas même un jour de paix. Quand je vois mon et par trop malheureux ami partir le matin pour courir après le nécessaire, le chagrin que je ressens est horrible, surtout à cette pensée. Trouvera-t-il, l'humiliera-t-on, lui fera-t-on sentir ce qu'on lui donne ? Et ajouter à cela son cher temps perdu, n'est-ce pas la plus sublime preuve d'amour et le plus grand sacrifice qu'un homme comme notre cher et grand ami puisse faire ? Être en pleine force, avoir le cœur et l'âme remplis de son œuvre, quand il pourrait produire de si grandes choses et être arrêté en si beau chemin, c'est une des peines les plus dures pour moi. À l'heure où je vous écris, je suis dans une inquiétude immense. Il est parti hier mardi matin à 9h. Toute la journée et toute la nuit se sont passées dans l'attente. Je n'y tiens plus, je souffre trop. Y a-t-il un homme sur terre qui court des journées entières dans Paris sans manger, à pied, n'importe par quel temps, pour recevoir humiliation sur humiliation, être rebuté des riches et des méchants, et tout cela pour sauver une pauvre fille ? En connaissez-vous un pareil ? Oui, c'est notre bien cher et vénéré Léon, lui à qui on ne devrait parler qu'avec respect, lui que les riches devraient aider pour accomplir son œuvre, car il n'est pas possible qu'il soit condamné à périr. Il a sa tâche d'écrivain à remplir avant. Il m'a dit ces derniers jours, « Vois-tu, ma pauvre amie, ce que j'aurais gagné à avoir souffert ainsi, c'est que je reconnaîtrais mes vrais amis, je saurais distinguer la beauté des âmes, mais je serais implacable pour les autres et j'en ferai une étude des plus approfondies. » Il est 7h du matin, je vais vous quitter à regret, car je ne me lasserai pas de m'entretenir avec vous. Mais je dois aller entendre une messe à la chapelle de la Vierge pour faire revenir mon pauvre ami, car je ne vis plus à force d'inquiétude. J'ai toujours peur d'un acte de désespoir. Et là, le PS est intéressant, il est entièrement de la main de Blois. Et c'est le PS et c'est le suivant, donc de la main de Blois. Je rouvre ma lettre pour vous dire que mon Léon vient de rentrer, il a à peu près réussi et il me charge de vous embrasser. Donc il est très difficile d'interpréter cet ensemble de lettres au Monchal. Si elle recoupe la plupart des propos tenus par Blois lui-même dans ses propres lettres au Monchal et à d'autres, elle pose aussi beaucoup de questions. Comment, en effet, démêler le vrai du faux ? Cette dernière lettre a-t-elle vraiment été écrite par Berthe ? Et en l'absence de Blois, les nombreuses corrections de Blois peuvent nous laisser en douter. Ou fut-elle entièrement dictée par Blois à Berthe ? Blois ment-il alors au Monchal ? Ce ne sont pourtant pas de véritables mensonges, puisqu'on sait que ces récits sont en fin de compte assez proches de la réalité vécue par le couple en ces années noires. La suite du dossier est ensuite contenue dans une enveloppe en tête de l'imprimerie papeterie J. Play, 35 rue Marbeuf. Voilà l'enveloppe, avec marqué en gros de la main de Blois « Funérailles ». Et en bas à gauche, je ne sais pas si vous le voyez, il y a en bas à gauche des comptes crayon de papier. On se rendra compte par la suite que ces comptes sont l'addition de toutes les dépenses faites par Blois pour l'enterrement de Berthe. Le montant est de 233 francs 65, ce qui est une somme très importante, surtout dans la situation financière de Blois à cette époque. Figure donc dans ce dossier, dans cette enveloppe, toutes les notes de frais liées aux obsèques de Berthe, l'aide de la mairie de Fontenay, du curé de Saint-Pierre et Saint-Paul de Fontenay. Alors, je vais vous citer celui du curé, par exemple, qui dit, le Fontenay, « Je reconnais avoir reçu de M. Blois la somme de 70 francs pour le convoi service et enterrement de Mademoiselle Dumont. » Voilà, et ça, c'est... Voilà, ça, c'est le curé, ça. Il y en a un autre. Ça, voilà, ça, c'est le reçu pour l'achat du cercueil en sapin. Alors, une des dernières pièces du dossier... Voilà, c'est ça. du vivant de Berthe, et à vrai dire sans doute la dernière, est un document tout à fait intéressant au point de vue médical. Il s'agit de sa dernière ordonnance de médecin, datée justement du 11 mai, jour de sa mort, une écriture assez peu lisible. Et on arrive à dire quand même que, mis à part 90 grammes de sirop de menthe, sans doute pour ses propriétés antalgiques, une prescription pour 4 grammes d'hydrate de chloral, je ne sais pas si vous arrivez à lire, à peu près au milieu, d'hydrate de chloral. Le chloral fut utilisé en psychiatrie dès la seconde partie du 19e siècle. On sait même qu'une dose de 10 grammes pris en une seule prise est mortelle. Donc là, elle a quand même une ordonnance pour 4 grammes. Donc il s'agissait au départ, initialement, d'un traitement pour le délirium très mince. Ce traitement était utilisé pour les patients atteints de mélancolie, comme on disait, ou de neurasthénie quelques années plus tard. Il était apprécié par les médecins, car son action était beaucoup plus longue que celui de la morphine. On peut donc imaginer qu'à la fin de sa vie, Berthe essayait d'arrêter la morphine et qu'un traitement à l'hydrate de chloral lui fut prescrit en remplacement. Les conséquences de la prise de chloral sont connues, hein, ulcération cutanée, gastrique et très grande léthargie. Mais ce traitement n'apportait rien d'autre qu'une période de calme après la prise, l'état redevenant identique à celui d'avant la médication. Donc il faut donc imaginer Blois vivant avec Berthe, morphinomane, avec sa mère sous le toit, qui était assez insupportable. Berthe, de nos jours, relèverait sûrement de l'hôpital psychiatrique. Lui, errant dans Paris toute la journée à la recherche d'argent, rentrant le soir à Fontenay pour écrire Le Désespéré. Ça ne devait pas être simple tous les jours. Blois a également conservé... Voilà, on ne les voit pas très bien, parce que je n'ai pas osé les sortir... Il a également conservé dans ce dossier, dans une enveloppe, des pétales de fleurs cueillies sur la tombe de Berthe le jour de son enterrement. Alors, j'ai presque fini, on aborde maintenant la fin. Ce dossier donc se termine par un passionnant ensemble de lettres de la mère de Berthe Dumont, Hélène Dumont. La première des lettres de la mère de Berthe est adressée à sa fille. Alors, la mère de Berthe est quasiment analphabète et c'est quasiment de l'écriture phonétique. C'est très, très dur à lire et il y a des mots que... Non seulement on ne peut pas les lire, mais il faut les deviner. Donc c'est une lettre qu'elle date du 26 juin 1845. Bon, par chance, il y a l'enveloppe, et en fait, elle est, le cachet de la poste est du 27 juin 1884. Donc je vais vous en lire quelques extraits, parce que c'est intéressant de voir les rapports de Berthe avec sa mère et de Berthe avec Blois. On va retrouver tout ça après dans le Désespéré. Hein. Donc je vous le lis texto avec les mots illisibles. Hein. Et vous ne voyez pas l'orthographe en plus. « Ma chère fille, je t'envoie les 4 paquets, donc c'est 4 paquets de morphine, les 4 paquets demandés, j'ai eu bien du mal à placer les timbres, Monsieur Blois est arrivé hier matin à 10h, il n'y a pas de ponctuation. Hein. Je reviens de cours, je cherche du travail partout, il n'y en a nulle part, je suis allé au bon marché, on n'a nul besoin de coursier. Ce n'est pas pour me prendre, enfin, que volonté du Dieu soit faite. Tout ce que je désire, c'est que tu guérisses, quoi que tu me dises, fais bien tes excuses à cette dame, je souffre trop, etc. » il me semble que je ne dois plus te voir, et cependant, M. Blois est si bon. Tu voudrais faire croire que je ne l'aime pas, lui qui est si prévenant pour toi. Tu as tort, Berthe, vous me manquez tous les deux. J'aime la société, et tout se retire dans moi quand je vois la pauvre petite chambre que je mets tout empressement à un mot lisible, et je suis bien désolé. Pour les 15 francs de chaussures à M. Blois, je lui ai dit la vérité, vaut mieux. Toutes ces choses m'étouffent, il est temps que ça finisse. Écris-moi souvent car je ne vis plus, ta bonne mère qui t'a toujours aimé. » Et là, elle signe en gros « Cesse la morphine, je t'en prie, cesse la morphine. » À Blois, ensuite, voilà les lettres. Les lettres de la mère de Berthe. Elle écrit, après la mort de Berthe, elle écrit longuement à Blois. Et d'ailleurs, son lettre, on peut voir un peu en filigrane la mère de Clotilde Maréchal, de la femme pauvre. Donc je vais vous lire quelques extraits, parce que sinon ça va être trop long. Une première lettre datée du 13 avril 86, donc à peu près... « Cher Monsieur Blois, je ne vous ai pas écrit plus tôt, car je tenais à ne plus rien avoir à emporter de la maison. J'ai eu un temps affreux et beaucoup de mal à... » Alors il y a un mot illisible, mais le mot est souligné par Blois. Donc apparemment, lui non plus n'a pas pu le lire. « Que je charrie tout à bras, je suis brisé, mais grâce à Dieu, tout est fini. J'ai pu m'en tirer tout de même grâce au concours des honnêtes gens. Quand vous viendrez, je vous dirai bien des choses que je ne puis dire qu'à vous seul. Vous n'ignorez pas, vous, tout le malheur. Enfin, j'ai bien du courage et espère votre protection. Écrivez-moi un mot, s'il vous plaît. Quand dois-je vous attendre? Vous savez que je suis au 22 rue de la Corvée. Le propriétaire n'a pas été trop exigeant. Je lui ai promis un peu d'argent le plus tôt possible. » Bon, elle continue comme ça. Et elle écrit après « À bientôt, Monsieur Blois ». Elle écrit « Blois, B-L-O-Y-T-M-A-S ».« Écrivez-moi l'heure que vous voudrez que je ne sorte pas. Tout à vous d'amitié, veuve Dumont. » À nouveau, avril 86. « Monsieur Blois, donc B-L-O-Y-S, vous ne m'avez pas répondu. Je ne sais pas vraiment ce que cela veut dire. Quand vous saurez ce que j'ai fait pour vous dans Fontenay, vous serez plus indulgent. Vous serait-il arrivé quelque malheur ? Dites-le-moi. Je suis bonne, moi. Vous saurez plus tard. Bref, le dessus, tenez toujours votre bien, votre adresse cachée. Hier dimanche, je revenais de porter des fleurs à notre pauvre Berthe. Qui vois-je à la maison ? La Crécillon. Les coups que cette femme m'a donnés, elle a su notre adresse par une femme qui a logé chez elle et qui reste dans Fontenay, une nommée Rose. Je lui ai dit que vous étiez parti en voyage, bien loin d'ici, et moi-même ne savais où vous étiez. Elle m'a dit qu'elle... un mot illisible, que je ne sois venu il y a 15 jours. Pensez si elle m'a dit des raisons, disant qu'elle vous retrouverait. Soyez prudent, cachez votre adresse, et quand vous viendrez à Fontenay, venez par des chemins dérobés. Suivez mes conseils, monsieur Blois. J'éviterai de mon côté qu'il vous arrive rien de fâcheux. Vous avez dû savoir que j'ai fait le jour de votre déménagement. Vous êtes parti librement. La suite vous apprendra le reste. Seulement, si vous êtes juste, vous n'écouterez pas les mauvaises langues. Ce qu'ils ont fait tournera à leur confusion. Je sais de qui cela vient. La tombe de Berthe est pleine de plâtras. J'ai tout enlevé avec mes mains. Pauvre enfant, si elle voit tout ce qui se passe, n'en parlez jamais dans Fontenay. Croyez-moi, répondez-moi, s'il vous plaît, monsieur Blois. Nous sommes en semaine sainte, on ne doit en vouloir à personne. Jésus a pardonné à ses plus cruels ennemis. Je vais adresser une lettre à votre ami Landry. Je crains que cette Crécillon n'aille à la poste désirer votre adresse. Mes civilités, monsieur Blois, à bientôt. Il y a encore une autre lettre, je ne vais pas vous la lire, c'est trop long, il y a encore beaucoup de lettres. Et qui sont des lettres un peu décousues, elle donne des nouvelles de Fontenay, elle perd un peu la tête. Et enfin, la dernière lettre, la dernière lettre est assez intéressante, puisque c'est une lettre de décembre 86, qui est une longue lettre de 4 pages, et qui est adressée à Adèle Monchal. Donc la mère de Berthe écrit à Landry, ça j'ai pas la lettre, et elle écrit à Adèle Monchal. Monchal qu'elle écrit M-O-N-C-H-A-2-L-E. Donc je vous donne un petit peu comment elle écrit à Madame Monchal. Madame Monchal, pardonnez si je n'ai pas répondu de suite à votre lettre qui m'a fait un extrême plaisir. Je vous remercie bien sincèrement de ne pas oublier ma chère Berthe. Vous lui avez donné le nom de sœur, elle le mérite. Berthe était bonne, c'était un ange égaré sur la terre. Donnez-moi aussi, s'il vous plaît, des nouvelles de Monsieur Blois. Qu'est-il devenu ? Je lui ai écrit par 3 fois et pas de réponse. Et je ne sais ce qu'il est devenu. Je ne mérite pas ce silence. Vous me dites que vous voudriez voir la douce figure de ma pauvre Berthe. Monsieur Blois ne vous a donc pas montré la photographie ? Il en possède 2 qu'il devait vous envoyer. Ensuite, elle va aussi cimetière. Et je reprends la lettre. Daignez-vous accepter quelques feuilles ? Elles vous parleront d'elle, car elles vous aimaient bien. Pardonnez mes larmes. À bientôt. Écrivez-moi souvent. Et restez l'ami de votre amie Berthe. Bien des compliments à votre mari. Embrassez bien vos petits-enfants. Si vous voyez Monsieur Blois, présentez-lui mes respects et dites-lui que je lui serai heureuse de le voir, ainsi que vous, madame, si à l'occasion vous venez à Paris. À bientôt. Et vous recevrez le portrait de Berthe. Madame, recevez mes civilités. Veuve Dumont. Ainsi donc se termine ce dossier Berthe Dumont. Si vous voyez M. Blois, présentez-lui mes respects. Il y a peu de chances que la mère de Berthe ait lu la femme pauvre. La venimeuse femelle, comme l'appelait Blois, aurait sans doute été un peu surprise par le portrait que Blois en a dressé, d'elle et de son mari, le couple Chapuis. Ce dossier nous permet donc d'appréhender la figure de Clotilde Maréchal au travers de Berthe sous un autre jour et de voir en elle une femme aimante, certes sous l'emprise de Blois, mais vraiment sincère. Il nous permet également de toucher du doigt, si l'on peut dire, la réalité de la vie de Blois lors de ses années de rédaction du Désespéré, alors qu'il vivait, sans le savoir, la première partie de La femme pauvre. Je vous remercie.